Bienvenue à la première émission de 2023. Nous vous souhaitons en cette nouvelle année, vos projets, la joie et une bonne santé sont au rendez-vous.
Ouvrez grand vos oreilles et grâce à ces créations de différents adhérents de Micro-Sillon, vous allez pouvoir commencer l'année en dansant et avec le sourire. Et c'est parti pour le show!
Bonne année!
Bonne année!
Singularity, le morceau électro-ambiante progressif de moi-même, Olivier Serra, Ulysse Univers, dure 7 minutes 14.
Jean-Noël va nous parler de son voyage au Mexique.
Et une biographie de célèbre acteur Jean-Paul Belmondo par Marc.
Répète en douceur. Je vous présente mes clics.
Une interview de Gildas participant au film documentaire La vie de tempête sur le mouvement des Gilets jaunes réalisé par Marc Kahn, que j'ai interrogé, qui témoigne au micro de moi-même, Vincent Reportage 31 d'Association Micro-Sillon, et deux autres qui suivront dès l'année prochaine, en 2023, faites par une autre participante, ainsi que Odile Morin, figure emblématique à Toulouse des Gilets jaunes, de l'association Handisocial, militante française pour les droits des personnes handicapées.
Puis viendra les chroniques du fil avec Nouche qui nous présentera le programme de son théâtre associatif, le théâtre Le Fil à Plomb, un théâtre exceptionnel et insolite.
Puis on entendra l'interview d'Amélie qui est sur les plateaux des Mille Vaches dans le Limousin. Vient en aide à des personnes en état de souffrance psychique à travers un réseau informel et bénévole, le réseau PsyPsy. Qui fait son chemin.
Oui, encore, Mébé vous présente Superstars.
Et avant de vous laisser, une information pour janvier, un film assez important sur l'environnement à voir le 13-1-2023 à l'Utopia Borde Rouge, séance unique, le vendredi à 19h30, en partenariat avec Nature et Progrès Tarn, débat animé par Dominique Massé, co-président de la campagne Glyphosate, Bernard Guigne, collectif des victimes de pesticides de l'Ouest, Lou Fradkin, juriste FNE. Secret toxique Kézako, juste très rapidement pour vous donner envie. La campagne Secret toxique est une coalition d'associations initiée par Nature et Progrès France, campagne Glyphosate France et Génération Future portée par plus de 60 autres associations et groupes locaux, dont des confédérations paysannes, le combat Monsanto, Agir pour l'environnement, Terre d'abeilles, UNAF, Attaque solidaire, etc. Plus d'infos sur le site secrettoxique.fr et sur le cinéma Utopia.
Pour conclure, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à Micro-Sillon au 1 rue Francis Lopez, quartier Croix d'Orade. Nous proposons des activités de toutes sortes et aussi autour de la radio. À bientôt!
À très vite!
À bientôt! Et à bientôt et à Thank you. Capitaine, quelque chose s'approche du vaisseau.
Mais qu'est-ce que c'est?
C'est Microcyon.
Ça ressemble plus à une rivière.
Un stream à Microcyon.
On peut le regarder tous les mercredis à 17h.
Sur Twitch? Non, sur YouTube. Le YouTube Association Microcyon.
Mais enfin,
l'association à YouTube. Oui, il y a qu'à chercher Association Microcyon dans YouTube. Yeah, un des premiers streams en santé mentale de France. On ne trouvait pas le canal avant, car il était trop calme.
Très bien.
Tous les mercredis à 17h.
Prochain arrêt, les périples de Jean-Noël.
Vu que Jean-Noël a utilisé une musique qui n'était pas libre de droit, alors vous aurez droit à une retranscription de ce qu'il a dit. Je suis parti seul l'été 2015 au Mexique une semaine. J'étais une semaine dans l'hôtel Rio Lopit à Playa del Carmen. J'ai réservé quelques excursions pour visiter un peu le Yucatan. J'ai vu l'une des sept merveilles du monde, Chichen Itza, qui est une ancienne cité maya en ruine. Lors de cette excursion, je me suis aussi baigné dans le Cenotzuitl. J'ai fait une journée en excursion également au parc Ixcaret. J'ai nagé avec des dauphins, fait un rituel maya sous une pierre, avec des braises et de la chaleur. Assisté à des spectacles sur l'histoire du Mexique. Je me suis également baladé sur la 5e avenue de Playa del Carmen également lors de ma semaine. Et fait de la plongée sous-marine dans la mer des Caraïbes. J'ai eu un peu peur lors de mon voyage au Mexique, car j'y suis allé juste quand El Chapo, un baron de la drogue, s'est échappé de prison. Mais tout s'est bien passé lors de mon voyage au Mexique. Et c'était tout.
Alors donc, qu'est-ce que tu vois ?
Je vois des stries noires, des micro-sillons.
Des micro-sillons ?
Oui, avec l'arcane du monde et du fou, ça doit signifier la création sonore.
Ça crée des sons ! Temps de voir ce que le futur nous réserve !
Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sur Micro-Sillon. Et aujourd'hui, Marc vous propose la biographie du grand Jean-Paul Belmondo, sur lequel il a mis une musique non libre de droit. Donc Akedol a dû en retranscrire le texte entier avec consternation. Jean-Paul Charles Belmondo est un acteur français. Né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine et mort le 6 septembre 2021 à Paris dans le 7e. Producteur de cinéma et directeur de théâtre, il est le deuxième des trois enfants de Paul Belmondo, né en 1898-1982. Son père, sculpteur de renom, d'origine piémontaise et sicilienne, né à Alger, et de Madeleine Reynaud Richard, 1901-1997, une artiste peintre qui a rencontré son futur mari sur le banc de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Jean-Paul Belmondo a fait ses débuts à 27 ans lorsque Jean-Luc Godard, alors critique de cinéma, lui offre son premier grand rôle en 1960. Il y donne la réplique à Jean Seberg dans À bout de souffle, un polar qui deviendra emblème de la nouvelle vague. Son film, qui a fait le sluice d'entrée, était Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch en 1988. Un grand nombre de ses films sont devenus des classiques du cinéma français, comme À bout de souffle en 1960, Léon Morin, prêtre en 1961, Un cygne en hiver de 1962, L'homme de Rio et 100 000 dollars au soleil en 1964, Borsalino en 1970, Le casse en 1971, Le magnifique en 1973, Le professionnel en 1981 et Hold Up en 1985. Une vie entière consacrée au cinéma, cette légende du cinéma français s'est éteinte le lundi 6 septembre de 2021 à l'âge de 88 ans.
Micro-sillon.
Fuego, made the freaking vibe.
Expose me, straight, I told for sure, I bet you never see a man like me. I do it perfect, I play my slurve. I sing to the last, now you forget and fix when. Of course, some things I had not before, and had not before, I met you, doesn't make. And I checked the right, but it's possible I know this what I'm on. Because your faith, and I don't know what's feels. We keep telling to your friends, I don't know what they want to know. Today is special time to rhyme the story, right away to dawn. I have things, but I never focus. I hope you still going your way. I realize that you and I rage. Check up your ways. See, I'm talking on time for you to start the good ways. Fuck everything. You can realize that on your fucking life. Fuck your race up. Then know you can. I ain't got time to play. All I'm doing is this. You up. I'm friends with Maximum. I've got truth. I don't want when I put a proof. All I love me, me. Ends up the race. Ask me up when you want the truth. And I tell you so many roads and lanes. So many no right now I'm on my plane. It's me better and you I'm up main levels. The list gonna ask me up when you want the truth. And not just so many roads and less so many no right now I'm on my plane. It's up there and you I'm up main levels. I know how far I am. All I hope to share because you're a pussy. I'm telling you that you're a big pussy. It's my to the pussy alone. I hope you feel lost like whoever you are. I everyone, baby, me been a studio. Hello to the world, I'm fucking with my thoughts. If you hear me, it's right, we are fucked. Many just start, many just start. I've got food and drinks. You can't call me Coco. All I want the world, I've got friends, I've got money. Going up, pumpkin, you cannot do what I can. It won't stop, you know it's a maybe flying on the air. You can tell more as I'm telling you, and never had time to play. I wanted to see what kind of friend you were. Many could help me stay all free. I ever worked for an answer. I'm talking about school, why you way at home? Nothing about your work, why the hell I'm saying, bro? Je suis numéro 1, je gagnerai tous les jours, je vais une ville à propriété. Principal, monsieur Florenté, Jean-Baptiste. Ladies gonna ask me up when you wanna chew. And not just many roads and let many road. I know my plan is me bait and you I'm up mean levels. Ladies gonna ask me up when you wanna chew. And not just many roads and let so many know. Right now I'm in my plan is me bait and you I'm up mean levels.
Des interviews diverses et variées.
Des loyers spatiaux. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Bonsoir, je suis avec un des participants, témoignage et acteur du mouvement des Gilets jaunes où on a vu le film Avis de tempête. Donc je vais le laisser se présenter, qui a filmé pendant les manifs des Gilets jaunes aussi.
Salut, je m'appelle Gildas, effectivement j'ai été interviewé par Marc pour le film. Bah moi j'ai été surtout ému, ouais, j'ai une larme qui a coulé quand même pour tous les gens qui se sont fait défoncer la gueule durant le mouvement des Gilets jaunes. Et voilà, je trouve que le film film est assez représentatif de la diversité des gens et des événements qui se sont déroulés durant le mouvement des Gilets jaunes. Je trouve que c'est un bon film.
Je sais pas si tu sais, il y a eu plusieurs films autour des Gilets jaunes. Je sais pas si t'en as vu d'autres. Et dans ce cas-là, si t'en as vu d'autres, qu'est-ce que t'aurais à dire par rapport aux différents films qu'il y a pu avoir autour des Gilets jaunes? Il y a eu Un Peuple, par exemple, et d'autres dont j'ai oublié le nom.
Et ouais, non, je les ai pas vus. Je crois qu'il y avait un journaliste, Dufresne aussi, qu'on a sorti un. Je les ai pas vus. Non, j'ai pas vu. Je peux pas comparer, du coup, avec ces autres films.
Que peux-tu dire sur ce mouvement qui s'est estompé avec le Covid principalement? Qu'est-ce que ça va reprendre? Qu'est-ce que tu aurais à dire autour de ça?
Moi, je pense qu'il y a des mouvements qui vont reprendre et ça va être de pire en pire. Je pense qu'il va y avoir des émeutes, il va y avoir d'autant plus, encore plus de répression. Et je pense qu'en face de nous, on a des gens qui veulent exterminer le peuple, littéralement. Et je pense que ça va très mal se passer jusqu'à ce que cette civilisation s'effondre et qu'on puisse repartir sur une civilisation plus saine.
Donc il va y avoir une révolution, tu penses, comme à l'époque historique, je sais pas?
Non, je pense qu'une révolution est totalement impossible actuellement grâce aux technologies d'ondes, dont par exemple les canons à terahertz. On est tous blindés d'argent colloïdal qui nous ont foutu dans les vaccins depuis qu'on est petit. Grâce aux ondes terahertz, tu mets n'importe qui à genoux, ça a déjà été utilisé à Hong Kong. Aucune révolution n'est possible actuellement. Il n'y a que le système qui va s'effondrer, qui va nous permettre de reconstruire une civilisation plus saine.
Comment ce système pourrait-il s'effondrer alors qu'ils sont tous bras dessus, bras dessous, le capital avec nos politiques qui sont plus ou moins leurs marionnettes?
Je pense que ça va s'effondrer parce que le capitalisme a pour base une croissance infinie, que les ressources sont finies. Le capitalisme qui fonctionne sur une croissance infinie dans un système dans lequel les ressources sont finies ne peut pas tenir indéfiniment.
Mais merci de ta participation. Si je voulais quand même te demander comment t'es venu ta participation dans ce film et comment, après avoir vu le film, tu ressens l'émotion, en fait, comment t'as vécu ce moment-là?
Ma participation pour le film, donc j'ai été interviewé par Marc, puisque voilà, on s'est rencontrés dans le mouvement des Gilets jaunes. Moi, je filmais en live, je faisais des directs live des manifestations, voilà. Il m'a approché pour m'interviewer. Moi, après mon implication dans le mouvement, il était aussi dans la structuration en démocratie directe. Il y a eu une superbe avancée à ce sujet-là grâce au groupe Constitution qu'on a mis en place. Ça n'a pas eu le temps d'émerger. J'espère que ça ressortira bien peut-être au prochain mouvement s'il y a des assemblées qui se mettent en place et s'il y a une tentative de construction en démocratie directe. Et après, moi, je me continue de m'investir dans le mouvement de la monnaie libre, la June. Voilà, on construit un système économique alternatif basé sur une création monétaire alternative.
Et dans le light painting, toujours, plus ou moins on...
Alors, tout à fait. Je suis intermittent du spectacle, je suis artiste et je fais toujours des spectacles de light painting, tout à fait. Je suis toujours très heureux de faire des calligraphies avec de la lumière, d'afficher ça, voilà, sur des monuments et...
J'ai fait un mouvement avant les Gilets jaunes, Nuit Debout, social également.
Tout à fait, j'avais ramené mon système de light painting à Nuit Debout Toulouse. On s'était amusé à... Voilà, le système avait permis aux participants de Nuit Debout de faire des créations de lumière. On s'était fait quelques portraits sur la place du Capitole en light painting, tout à fait.
Et il y avait aussi la fête de l'image. Je crois que c'était la première fois que je voyais ton œuvre et que je te rencontrais.
Ah d'accord, écoute, c'était il y a très très longtemps, hein, fête de l'image. Je crois que c'était 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. Alors moi, je me souviens où on s'est rencontrés... C'était à Bellefontaine, au centre culturel Alban-Mainville. Voilà, oui, c'est là où...
Il y avait eu aussi quelque chose là-bas où tu avais fait du light painting, mais je ne me souvenais pas de cette fois-là. Moi, je me souvenais d'une autre.
C'est marrant. Moi, c'est là où je me souviens, tu t'étais présenté, tu m'avais donné ta carte. Et qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on ne se connaît pas vraiment, mais qu'on se connaît comme ça.
Tu m'avais vite fait interviewer aussi en manifestant pour les Gilets jaunes.
Excellent. Bah, écoute, je ne me souviens pas. Excellent.
Tu as des rollers, ta caméra portative.
C'est ça. Ouais. C'était du journalisme citoyen, on va dire. Moi, je suis pas journaliste. Moi, j'aime bien ce côté de décentralisation, c'est-à-dire une sorte de média dont chaque citoyen est porteur de son média. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris la caméra et les patins pour aller filmer ce qui se passait. C'était pour montrer un autre point de vue que celui de la télévision.
Et tu auras fait quand même ton road movie à ta façon.
Ah la vache, je peux dire, j'en ai bouffé du kilomètre. J'en ai usé des roues. Ouais, esquiver, moi, ça m'a sauvé la vie. Hein. Le roller en manif, j'esquivais plein de nasses, plein de gazages. J'étais beaucoup plus mobile que les piétons.
Ça te servait de bouclier, la vitesse de tourner.
Ouais, tout à fait. J'ai esquivé dans tous les sens grâce aux patins. Ouais. Et manif piéton, c'est chaud, quoi. En plus, les villes sont des territoires ennemis, en réalité. Il y a des caméras partout. Les flics, c'est à Paris, à l'époque d'Haussmann, ils ont reconstruit Paris pour justement prévenir, juguler les tentatives d'insurrection populaire. Les mecs en face, ça fait des siècles qu'ils bossent pour juguler les insurrections. Hein. Là, au XXe siècle, ils ont construit des villes carrément. Ils ont reconstruit des villes pour entraîner les forces de police à contrôler des émeutes et des insurrections.
En mode Robocop.
En mode Robocop. Et là, les nouvelles armes, là, le truc, les terahertz, c'est des travaux universitaires. Hein. L'argent qui réagit aux terahertz. Du coup, aucune insurrection est possible. Je suis désolé.
On va y arriver quand même. Faut espérer. C'est David contre Goliath, mais on y arrivera. Ah. Faut pas que le gouvernement qui est minime dirige une majorité. C'est pas normal. On peut pas laisser faire ça.
Non, on peut pas laisser faire. C'est sûr que c'est pas parce que c'est perdu d'avance qu'il faut rien faire. On défend des idéaux derrière, de justice. Moi, je crois que c'est un des mots qui est revenu assez souvent dans les interviews Café Marc. C'est on se bat pour la justice, en fait. Et donc, on va continuer de développer la solidarité, la mise en réseau. De toute façon, on va pas y avoir le choix.
Hein. Se rappeler de comment ont fait nos aïeuls avec la guerre contre les Allemands. Ils ont bien réussi à avoir gain de cause avec les résistants, le maquis. Donc voilà, c'est quand même moins... Enfin, on peut y arriver. Faut pas se laisser aller. Même si on peut avoir cette tentation à se laisser aller.
Écoute, c'est les Russes qui ont battu le nazisme. Hein. C'est pas les résistants. Je dis pas qu'ils ont pas participé. C'est les Russes qui ont battu les nazis à Stalingrad. Je crois qu'il y a des forces qui nous dépassent. Faut savoir rester humble. Et voilà, c'est sûr que faut agir selon son propre cœur, sa propre intuition et faire ce qu'on peut faire pour quand même essayer de rendre ce monde meilleur. Je suis tout à fait d'accord. En ça, moi, j'ai de l'espoir. C'est-à-dire que je pense pas que nous, on va pouvoir renverser ce système-là. Il est trop gros, ça nous dépasse. C'est un système qui est en place depuis des milliers d'années, depuis qu'on est sédentaire. Et c'est en ça où je dis qu'il y a des forces qui nous dépassent. Mais on reste des êtres humains, on a un cœur et on va pouvoir quand même construire des choses qui sont belles. Et voilà, c'est là où moi, je place mon espoir. Tout à fait.
Je vais juste te contredire, je peux pas te laisser dire ça, que mon grand-père était résistant. D'accord. Et ça, l'un sans l'autre, ça a été complémentaire. C'est vrai que la Russie, par rapport à Stalingrad, mais sans les résistants, que ce soit espagnol ou français ou d'autres pays, on serait sûrement plus français.
Ok, écoute, je peux rien dire face à cet argument massue. Merci à ton grand-père, merci à tous ces gens-là qui se sont battus, hein, qui étaient résistants, qui se sont battus, comme les Gilets jaunes se sont battus, et respect à toutes les personnes qui se battent, et merci à tout le monde, quoi.
Et merci à toi, et on va finir par une petite phrase humoristique. Usons nos patins, mais arrêtons d'être des pantins.
Excellent. Alors, usons nos patins et arrêtons d'être des pantins. De la balle. Et écoute, je sais pas d'où tu la sors, celle-là.
Elle
me plaît bien, Vincent. Merci. Merci à toi.
Allez, bye bye.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent. Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Bonsoir, je suis avec une des deuxièmes participantes. Il y en a eu plusieurs dans ce film qui ont témoigné autour du mouvement des Gilets jaunes. Et le film La vie de tempête.
Une vie de tempête.
Il y a marqué La vie de tempête, mais c'est un avis et c'est en même temps la vie de tempête. Que pouvez-vous donc nous dire autour de cette participation et cette projection, les témoignages que vous avez pu entendre aussi, vous, en retour?
Moi, c'est la première fois que je participe à ce genre de documentaire.
Donc ouais, c'est toujours super impressionnant en fait de savoir que notre parole va être diffusée publiquement. Mais j'ai été beaucoup aidée, accompagnée grâce à Marc Kahn qui a été super adorable, qui vous met en confiance. Et après, effectivement, comme c'est un mouvement, ben, comme je dis dans le documentaire, qui prend aux tripes. On ne peut pas être dans ce mouvement à moitié, quoi. Quand on le fait, on est à fond. Donc après, comme il nous met à l'aise, ben, petit à petit, on parle facilement et on se laisse aller à dire à discuter, quoi. Donc j'ai trouvé que le film était juste magique, qu'il avait bien retracé en fait ma vision du mouvement, parce que c'est un mouvement qui était tellement différent que chacun avait une vision très différente. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il avait vraiment pris les différentes facettes, qu'il a très bien fait ressortir surtout le côté humain, quoi, du mouvement, hein, cette rencontre humaine qu'on a eue et qui nous a aidé à tenir dans le temps et qui va nous aider encore à tenir, parce que pour moi ce sera peut-être pas les gilets jaunes de la même cette façon, mais pour moi il y a un gros mouvement populaire qui est né, qui a éclos à ce moment-là et qui va continuer, quoi, dans le futur. Voilà.
Comme j'ai demandé à un autre des participants à ce film qui a témoigné aussi, qui a fourni des images parce qu'il filmait pendant les manifs, que pouvez-vous dire sur où on va aller? Enfin, avec le Covid, ça a tout stoppé, plus ou moins. La guerre aussi avec la Russie et l'Ukraine. Mais comment envisagez-vous la suite par rapport à ce qui s'est passé? Où en est votre réflexion, votre point de vue là-dessus, vos échanges avec d'autres peut-être aussi?
Moi, je pense que le futur va être très dur, déjà économiquement parlant, avec les inflations et tout ce qui nous tombe sur la figure. Mais en même temps, je reste toujours très positive, parce que je pense que ces 4 ans nous ont formés en fait à la difficulté que va être demain. On a vécu, enfin moi je fais partie des gens qui ont été choqués par la violence policière, donc on a vécu, on sait maintenant, bon, je veux dire, on a été malheureusement préparés au pire, à ce que c'est que la violence d'État, et du coup quelque part on est prêt et il y a beaucoup de réseaux qui se mettent en place. Moi je viens d'Ariège et par exemple sur l'Ariège on crée énormément de choses pour aller de plus en plus vers l'autonomie par exemple. Donc il y a des réseaux qui se mettent en place, il y a des méthodes de lutte, de résistance, de protection face à la police, face à l'État, aux renseignements et compagnie qui se mettent en place. Et donc du coup moi je suis super positive parce que je me dis qu'il y a une lame de fond en fait qui s'est mise en place, et que même si demain va être pour moi plus difficile, pour moi on est en train de construire les armes qui vont nous aider en fait à transformer ce monde, parce que pour moi on est sur une charnière. Et ce monde va être... on va passer des moments difficiles parce qu'on est sur la charnière, sur le changement, mais ça va basculer et on se prépare à basculer vers quelque chose de mieux, quoi. La période va être difficile, mais on est prêt. Et pour moi, je suis positive dans le sens où ça va vers quelque chose de positif. Voilà.
Le mouvement des Gilets jaunes va se reformer ou ça va être un autre mouvement différent, à votre avis, plus ou moins similaire, peut-être?
Alors bon, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Et je pense profondément, peut-être pas de mon petit point de vue, hein, mais peut-être pas le mouvement Gilets jaunes tel qu'on l'a connu, parce qu'il y a énormément beaucoup de gens qui ont été, par contre, qui sont rentrés chez eux et qui sont résignés. Ça ne sera pas sous cette forme. Mais c'est une onde de choc pour moi qui préparera, oui, à autre chose, quoi. Donc pour moi, la résistance, la prise de conscience de gens qui ont été autour de nous, qui ont vu ce qui s'est passé, qui n'ont pas forcément été actifs dans le mouvement, ces gens-là commencent à bouger leur ligne, commencent à penser différemment, Donc pour moi, oui, il y a autre chose qui va partir. J'en suis sûre. Alors comment, je ne saurais pas vous dire, est-ce que ça va être sous forme de manifestation, est-ce que ça va être... Je ne sais pas vous dire, mais pour moi, oui, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis super positive dans le sens où on a appris énormément, on s'est formé énormément pendant ce mouvement, et du coup, on est prêt. Enfin, en tout cas, moi, je suis prête.
Comment expliquez-vous que les honnêtes citoyens, on peut dire, les gens qui en ont marre d'un système comme on l'a actuellement, sont pris à partie, peuvent prendre des peines de prison, des amendes fortes, alors que d'autres, comme il est dit dans le film, sont que ce soit trafiquants, black box, sont libérés rapidement et prennent moins que les autres. Comment l'État, enfin, les policiers en ont peur, qu'est-ce que vous diriez de ça?
Alors moi déjà, je suis pas du tout pour la division entre le peuple. Pour moi, ce qu'on appelle trafiquants de drogue, pour moi ils sont plein les prisons, c'est-à-dire C'est-à-dire que contrairement à ce qui a été dit dans le documentaire, et je lui en veux pas parce qu'elle a un vécu très douloureux qui fait que forcément elle a une analyse particulière, mais moi, mon analyse à moi, c'est que contrairement à ce qu'on veut faire croire, je veux dire, les gens, les petits dealers qui sont en prison, c'est une population pareil, qui souffre au jour d'aujourd'hui, qui souffre de discrimination, et donc je rentrerai pas dans le jeu, et je crois pas en fait, de la même façon que les mouvements des Black Blocs, même si je suis contre la violence, je considère que c'est des gens qui à leur façon en fait apportent un discours anticapitaliste, et qu'on oppose toujours, et qu'on montre toujours cette violence de vitrine cassée, et qu'en contrepartie on oppose jamais en fait la violence d'État. On vous parle de vitrines qui se cassent et on vous parle pas de SDF qui meurent dans les rues, on vous parle pas d'abribus qui sont construits au jour d'aujourd'hui dans Toulouse pour qu'un SDF ne puisse plus s'allonger. Ils sont faits de telle sorte qu'un SDF ne peut même plus s'allonger sur
avec des clous.
Avec des clous. Donc je veux dire, moi, ce discours de diviser la population et de faire les gentils manifestants, les mauvais manifestants, les gens dans les cités, les voyous des cités ou quoi que ce soit, moi je suis contre. Moi je veux dire, au jour d'aujourd'hui on est dans une situation tellement grave où aujourd'hui on sait même pas si cet hiver on pourra payer nos factures d'électricité, on sait même pas si on pourra acheter à manger tous les jours à nos gamins. Donc j'en suis pas en fait à regarder comment chacun essaye de survivre. Je pense qu'on doit être unitaire, le peuple dans sa diversité doit être unitaire face à l'État capitaliste. Donc voilà, je valide pas ce genre de discours, même si encore une fois c'est quelqu'un qui est adorable humainement et que je comprends très bien sa réaction vu le vécu qu'elle a, et que peut-être qu'à sa place j'aurais eu exactement les mêmes propos. Donc mais voilà, mais moi je politiquement parlant, je pense que c'est un discours qui divise et qui nous affaiblit en fait dans la résistance contre le capitalisme, contre l'État capitaliste. Donc
je peux comprendre tout à fait ce que vous dites, mais comment vous expliquez alors que la police, l'État, ils fassent pas les mêmes mesures vis-à-vis d'un citoyen en colère, d'un gilet jaune, alors que voilà.
Voilà, excusez-moi de vous contredire, mais ils font les mêmes mesures. J'ai été enfermée pour des manifestations pendant 15 jours à Fresnes, à Paris. Donc j'ai fait 15 jours de prison pour avoir manifesté. Derrière, j'ai été relaxée. Donc, et je peux vous assurer que dans les prisons, c'est rempli de gens qui sont arrêtés pour trafic de drogue. Mais c'est le petit gamin qui va faire le gay. C'est des nanas qui servent, on appelle ça de mules, c'est-à-dire qui se mettent de la cocaïne dans le vagin pour le faire passer aux douanes. Donc pour moi, c'est des victimes du système qui font ça, et qu'on ne dénonce jamais en fait les réels à l'État, qui eux, par contre, laissent rentrer la drogue et qui eux mettent en place toute cette drogue dans le pays et qui laissent faire le sale boulot. Et on dit aux policiers que c'est à eux d'arrêter, alors que ceux-là là-haut ne sont jamais condamnés, on les voit jamais en fait dans les prisons. Exactement, les gros poissons. Donc voilà, encore une fois, de mon petit vécu, alors après j'ai pas la science infuse, mais de mon petit vécu, il y a énormément de trafiquants, de petits dealers dans les prisons, quoi. Et pas, à mon avis, pas assez de col blanc dans les prisons. Voilà.
Ah, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Donc on a exactement le même, on a eu, enfin, j'ai eu le même traitement, enfin, ces gens-là ont le même traitement que nous, quoi, en fait. Hein. Sauf que la différence, qu'eux, ils ont peut-être une couleur de peau plus foncée qui fait qu'ils sont, peut-être un petit peu plus discriminés que nous, quoi.
C'est les bandits, comme vous disiez, à col blanc, ceux qui sont blanchis. Voilà. Et on ne sait pas, même s'ils ne prennent pas des substances.
Probablement. Probablement. Je n'en sais rien, mais bon.
Ouais, mais merci de votre participation. Et ouais, si vous voulez rajouter quelque chose autour du mouvement, de ce film.
Moi je suis super fière en fait. C'est pour ça que j'ai accepté de participer à ce documentaire, parce que je suis super fière et je trouve indispensable même d'écrire notre histoire, parce que si on analyse, l'histoire est toujours écrite par le vainqueur. Donc moi, ce qui me faisait peur, c'est que dans le futur, les générations qui suivent on déforme, et c'est ce qu'ils font déjà par des documentaires de BFM que j'ai pu voir, ils déforment en fait le mouvement gilet jaune, alors que là vraiment ça a été le mouvement, vraiment ce documentaire met vraiment l'accent sur le côté humain, sur le côté légitime de nos revendications, sur le fait qu'on était tous des gens qui n'avaient jamais eu aucun problème avec la police et qui se retrouver du jour au lendemain pour avoir manifesté face à cette situation. Donc donc je trouve que c'est super important. Je remercie Marc Kahn d'avoir fait ce documentaire, parce qu'il faut que des gens comme lui nous aident en fait à écrire notre propre histoire, et qu'on se laisse pas voler notre histoire par les médias et par la classe dominante.
Voilà. Je préciserai, par les gros médias qui influencent discriminent.
Oui, je fais la différence entre les médias mainstream et les petits médias. On est d'accord. Désolée, mais à culpa.
Et oui, et aussi, c'est bien dommage que les réalisateurs comme ça, indépendants, qui sont pas dans le showbiz, on va dire, parisien, n'aient pas assez de, moyens, pour faire connaître leur belle production qu'ils peuvent faire.
Mais je pense que ça fait partie de la propagande, enfin, de la propagande, des manipulations médiatiques, c'est-à-dire que les gens, justement, qui ont un autre discours, qui tiennent une autre version, ben, ces gens-là, eh bien, on ne leur accorde pas de moyens, on ne leur accorde pas de subventions, parce que forcément, ils n'ont pas un discours qui va dans le sens du capitalisme, effectivement, moi aussi je le déplore, quoi. Donc il faut encourager. Et merci à vous aussi.
De rien, bonne continuation, au plaisir.
Merci.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Reportage 31.
Vincent.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Micro-Sillon. Aujourd'hui, nous accueillons Nouche et Célia qui font partie du théâtre du Fil à Plomb. Le Fil à Plomb est un théâtre associatif. J'ai décidé d'appeler cette émission la chronique du fil parce que j'ai envie que ce théâtre associatif fonctionne, qu'il y ait beaucoup de monde. Et nous accueillons donc Nouche. Bonjour Nouche.
Bonjour Cédric.
Bonjour Célia.
Bonjour.
Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qu'un théâtre associatif et comment ça fonctionne ?
Un théâtre associatif, ça veut dire qu'on est associé ?
Oui.
Non, je blague. C'est un théâtre qui fonctionne avec de la billetterie plus une part de subvention.
D'accord. Tout simplement.
Voilà.
Comparé à d'autres théâtres, vous avez des subventions.
Voilà, mais comme plein de théâtres...
Oui.
Les trois quarts des théâtres sont sous forme associative.
Oui, les trois quarts des théâtres. Ah d'accord, ouais. je l'ignore.
Oui.
Ok. Ok, et donc la chronique du fil, le premier principe et le seul, c'est de vous faire parler de votre programme et de ramener un maximum de monde chez vous, parce que c'est vraiment un endroit génial. Vous avez été très accueillante avec moi, j'ai fait un stage chez vous que j'ai beaucoup apprécié.
Oui. T'as même exposé aussi.
J'ai même exposé chez vous, j'ai même exposé mes dessins chez vous et grâce à vous j'ai eu du travail. Donc je vous en prie, Célia, Nouche, n'hésitez pas, présentez-nous un petit peu ce qui va se passer en janvier. Qu'est-ce qui se passe là maintenant qu'on est à la rentrée et que c'est la nouvelle année? D'ailleurs, bonne année à vous.
Ouais, merci, toi aussi.
Merci, voilà. Bonne année.
Bonne année, oui, bonne année.
Déjà, on peut peut-être parler des rendez-vous du fil, c'est les gros points qu'il y a sur notre première partie de saison.
D'accord.
En sachant que notre programmation, elle se fait tous les 3 mois.
Oui.
Voilà, donc sur justement là... à partir de maintenant, de janvier à mars.
Mmh.
Et du coup, les gros points, c'est qu'on a le Printemps du Rire.
Le Printemps du Rire.
Qu'on accueille tous les ans dans notre théâtre avec un spectacle, un seul en scène de Lisa Pierriot. Voilà, c'est une comique, enfin je ne vais pas dire une comique, c'est pas le bon terme, une artiste qui fait du one-man show, mais qui là est vraiment programmée. Par le Printemps du Rire.
Par le Printemps du Rire,
voilà.
D'accord.
Et nous, après, on a 4 spectacles.
D'accord.
Suivis de jusqu'à... Enfin, de mars à avril.
Oui.
Avec Je m'appelle Blanche comme neige, compagnie Two People, qui est aussi un one-man show.
D'accord.
Feu la mère de madame par la compagnie de monsieur, ça c'est du 15 au 18 mars.
Oui.
Où c'est un fédo.
Oui.
Du 22 au 25 mars, il y a D'amour et d'amitié. Avec la compagnie vraiment super, c'est deux artistes qu'aiment beaucoup Céline Dion. Voilà, donc ça veut tout dire.
Oui, ok.
Et du 29 mars au 1er avril, on a le spectacle Ça fait peur, non, par la compagnie du Petit Matin. Donc ça, c'est vraiment les spectacles dans le cadre du Printemps du Rire.
D'accord. Et le Printemps du Rire se déroule de quand à quand exactement ?
Du 8 mars au 1er avril.
Du 8 mars au 1er
avril. Dans notre cadre à nous.
D'accord.
Mais autrement, je pense que ça se prolonge un peu
D'accord.
pour le festival Le Printemps du Rire.
Donc vous faites le programme tous les 3 mois. Qu'est-ce qui se passe en janvier, là, tout de suite, maintenant ?
En janvier, on accueille donc... Des compagnies tout public le soir à 21h du mercredi au samedi et du jeune public aussi les mercredis et samedis à 15h30. Donc pour le tout public à 21h. Du 11 au 14, donc la première programmation de la saison 2023, c'est On s'embrûle par la compagnie Sous ma peau. Et donc c'est aussi un seul en scène sur une pièce qui est tragicomique.
Super.
Et ensuite, on enchaîne du mercredi 18 janvier au samedi 20 avec Blanche-Neige règle ses comptes, qui est aussi un seul en scène humoristique. On aime beaucoup les seuls en scène au fil à plomb, mais on n'a pas que ça. Et ce seul en scène-là, ce sera par la compagnie Anaël. Et ensuite, du mercredi 25 au samedi 28 janvier, on a Solamente le Stel qui là est une pièce de musique et de poésie. Et c'est fait par la compagnie Sur la peau du monde. Et donc c'est interprété par Alexis Palazzotto.
Et ça, c'est un accordéoniste qui a pris parti de raconter l'histoire du tango, mais par sa musique. Donc on va aussi bien retrouver des airs qu'on connaît, mais il a aussi écrit tout un répertoire pour retracer toute l'histoire du tango en musique, avec très peu de paroles en fait. Et c'est vraiment, enfin c'est très très chouette quoi. Voilà.
Je sais qu'au Théâtre du Fil à Plomb, il y a beaucoup de spectacles jeunesse pendant les vacances.
Oui, mais en janvier, on n'en a pas. Enfin, on a des spectacles, mais on n'a pas de vacances.
On sortira des vacances.
Ouais.
Comme on sort des vacances.
Les prochaines vacances de février, par exemple, mars, qu'est-ce que vous prévoyez pour nous, Petio?
Donc, pour les vacances scolaires, ce sera du coup du 21 au 25 février.
Oui.
Là, les dates sont un petit peu particulières pendant les vacances parce que les jeunes publics jouent du mardi au samedi. Et donc il y a 6 représentations, dont les représentations tous les jours sont à 15h30, et il y a une représentation en plus à 10h30 le mercredi.
Très
et pour ces vacances de février, du 21 au 25, donc, ce sera au pays des Laminax, c'est par la compagnie Rouge les Anges.
Et c'est un spectacle de marionnettes avec 2 comédiennes. Voilà, et c'est pour à partir de 6 ans, donc c'est quand même pour des enfants pas tout petits.
D'accord.
Et sur la deuxième semaine des vacances, on a Un ours dans mon frigo, qui est un spectacle de théâtre. Et c'est une compagnie qui vient du Lot, si je me rappelle bien.
D'accord.
Alors que d'habitude, on programme surtout des compagnies toulousaines.
Oui.
Mais là, ils avaient envie de venir, donc on a dit oui.
C'est la compagnie Théâtre des Demains.
On a fait un petit peu le tour du programme de janvier, février, mars.
Mars, ouais.
Ouais. D'accord. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous avez un site internet, un Facebook, un...
Oui, on est sur les réseaux sociaux, donc on a un Facebook et un Instagram. Donc si vous tapez Théâtre Le Fil à Plomb, vous devrez nous trouver. Et on a aussi un site internet avec toute la programmation et là où vous pouvez réserver directement sur le site. Et sinon, au niveau de la location, vous pouvez nous trouver au 30 rue de la Chaîne à Arnaud-Bernard. Vraiment sur la place des Tiercerettes, donc à 5 minutes du métro Combins-Scaffarelli.
Super.
Et si je peux rajouter aussi.
Vas-y.
En fait, on a aussi Ciné-Palestine.
D'accord.
Qui est un événement qui se fait chez nous le 13 mars depuis des années, où il y a une projection dans Les Pas de Maher, qui est un film de Thomas Jarvet. Donc c'est une projection, c'est participation libre, et c'est vraiment dans le cadre de Ciné-Palestine. Après, tous les dimanches, on a carte blanche avec l'association Del Arte et le Kif Kif collectif de 17 à 19h. Et c'est vraiment un moment festif de slam et de musique, où c'est ouvert à tout le monde aussi. Donc ça, c'est tous les premiers dimanches... de maintenant jusqu'à mars, enfin, en fait c'est toute l'année.
Oui.
Et comme toi tu avais pu venir, que tu nous avais exposé tes œuvres, on fait une exposition d'œuvres par mois.
Super.
Que ce soit du dessin, que ce soit de la photo,
ou de la peinture.
Donc comme toi tu avais pu le faire, Cédric, avec ton expo de dessin.
Oui, c'est vrai.
On continue à accueillir des expositions, une différente par mois.
Oui, de très belles expositions,
voilà,
je tiens à le préciser.
Soit... Merci. Que ce soit peinture, photo, dessin, enfin c'est vraiment ouvert à tout le monde et on est toujours prenant.
D'accord.
De nouveaux artistes qui ont envie de se produire. Et en plus de ça, depuis septembre,
oui,
on a commencé les apéro-spectacles.
Qui consiste à...
Tous les premiers jeudis du mois, on a un artiste qui va venir, alors c'est soit des lectures, soit de la musique... soit du théâtre, mais sous petite forme, autour d'un verre. Voilà, pour faire connaître encore le théâtre différemment. Et là, c'est pareil, c'est participation libre. On passe le chapeau pour les artistes. Et c'est un moment bien convivial. Et là, justement, le premier apéro, c'est du coup, c'est le 12 janvier. C'est dans très peu de temps. C'est donc jeudi à 19h et c'est la lecture s'appelle Le sens d'une amour par Sandrine Velasco. Et en fait, c'est des lectures sur des textes un peu érotiques, sensuels. Voilà, mais qui est vraiment ouvert à tous. Et
on passe au chapeau. Et c'est ça qui est bien chez vous. C'est que c'est accessible à toutes les bourses et compte tenu de la conjoncture, c'est bien de pouvoir s'offrir un spectacle pas très cher et qui permet de nous détendre, de penser à autre chose. Bah, je vous remercie d'être venu.
Bah, merci à toi.
Merci à vous de nous recevoir. Voilà,
on se verra dans 3 mois.
Voilà, ça peut être bien. Super.
Ça peut être bien.
Ouais.
Ça vous fait plaisir.
Ah oui, complètement.
Ouais. En tout cas, moi, je suis content de vous avoir accueilli. Merci à vous deux.
Du coup, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc Théâtre Le Fil à Plomb sur Facebook et Instagram. Mais on a aussi notre site internet où vous pouvez retrouver toute la programmation et les formulaires de réservation, donc sur théâtrelefilaplomb.com. Et n'hésitez pas à réserver au 05 62 30 99 77. Voilà.
Oh, elle m'a filé son numéro de téléphone.
Celui du théâtre.
Merci beaucoup.
Merci bien.
Et bonne continuation et je vous souhaite vraiment beaucoup de public.
Merci beaucoup.
Allez les bis. Ciao.
Salut.
Bonjour Amélie.
Bonjour Pierre.
Donc on est à Faux-la-Montagne et tu fais partie du groupe Psy-Psy.
Tout à fait.
Donc est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu toi et présenter cette initiative à laquelle tu participes?
Donc je m'appelle Amélie, moi je suis belge, j'ai débarqué dans le coin il y a 2 ans, en octobre 2020, et j'ai intégré le groupe d'entraide psy, je sais plus, il y a à peu près 1 an. Donc le groupe d'entraide psy, entre 15 et 20 personnes, tous bénévoles. Et on vient en aide aux personnes qui traversent un moment de vie difficile et qui font appel à nous. Ben, quand quelqu'un fait appel à nous, donc soit c'est par le bouche à oreille, soit c'est via... En fait, depuis le Covid, on a fait l'acquisition d'un téléphone. Avant, il n'y avait pas de... Le groupe d'entraide n'avait pas de numéro de téléphone, mais maintenant, on a un numéro de téléphone. Du coup, les gens peuvent nous contacter... Via cette ligne téléphonique, on essaye de donner une réponse dans les 24-48 heures. Et on fonctionne toujours en binôme autour de la personne qui est demandeuse d'un accompagnement. Et du coup, c'est des gens qui... Ça peut être des situations vraiment très diverses, quoi. Des gens qui vivent une dépression, qui vivent une séparation conjugale, qui vivent des violences conjugales, des envies suicidaires, des burn-out. Ça peut vraiment être plein de choses. Des gens qui sentent seuls, qui ont besoin de parler. Et du coup, nous, on va mettre en place un binôme autour de cette personne qui va la rencontrer, voir un peu, évaluer quels sont les besoins. Et voilà, et en fonction de ce qu'on va identifier avec la personne, on va parfois, l'aide peut se résumer à juste offrir une écoute. Parfois, ça peut être lui donner des adresses de professionnels dans le coin, un psy, un psychiatre. On va toujours travailler à partir des besoins et des demandes de la personne. Parfois, c'est quelqu'un qui a juste besoin d'un coup de main au niveau de la vie quotidienne, quelqu'un qui, je sais pas moi, qui arrive plus à... Enfin, on va essayer d'identifier avec la personne quels sont les éléments qui sont... Tu veux dire quelque chose?
C'est-à-dire que concrètement, par exemple, vous vous déplacez chez lui, chez elle?
Ça peut, mais on essaye de que ça devienne pas une habitude, parce que finalement, après, les gens nous identifient comme des gens qui se déplacent à un domicile, et ça nous coûte quand même pas mal de kilomètres de voiture. Du coup, si la personne sait se déplacer, ben, on essaye de trouver un lieu qui arrange tout le monde, quoi, qui soit à la croisée des chemins des trois personnes.
Oui, parce que pour information, donc on est à Faux-la-Montagne, on est dans un endroit, dans un espace très rural.
Tout à fait.
Et il n'y a pas que des personnes de Faux-la-Montagne qui s'adressent à vous ?
Non.
Vous intervenez, vous...
Ben, nous tous, déjà au sein du groupe PSI, on n'habite pas tous, pas du tout tous à Faux-la-Montagne. Il y a des gens qui sont à Royères, à Saint-Morey, jusqu'à Émoutiers.
Qu'on comprenne, c'est que ça concerne un périmètre près d'une trentaine, quarantaine de kilomètres autour d'ici. Quoi.
Oui, c'est ça.
Est sur le nord du plateau des Mille-Vaches.
Voilà, c'est ça.
Voilà, dans le Limousin.
Voilà.
Et c'est une initiative qui remonte à quand, tu le sais un peu ?
Je sais que ça a été créé il y a une dizaine d'années. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, en 2011, je pense qu'il y a des gens du coin qui ont lancé, qui ont organisé plusieurs jours de réflexion autour des souffrances psychiques. Mais j'y étais pas du tout. Et je sais qu'à partir de là, à peu près dans la foulée, est né le groupe d'entraide psy.
Voilà. Donc vous êtes un groupe qui vous réunissez pas pour prendre des grandes décisions, avec des comptes rendus.
Non, on n'est pas du tout une association, mais on se retrouve quand même entre nous à peu près une fois par mois pour un peu traiter les questions courantes. Quoi.
Vous n'avez pas créé de bureaucratie ?
Non, du tout.
Mais par contre, vous avez des échanges réguliers, ça permet au collectif un petit peu aussi de tourner facilement.
Oui.
Des nouvelles personnes sont facilement intégrées.
Oui. Ça nous permet de nous organiser entre nous, de se donner des nouvelles, d'organiser des moments d'échange de pratiques, de discuter de nos accompagnements, de voir comment chacun fait. On essaye aussi d'organiser des moments de supervision avec un ou des professionnels psy extérieurs pour avancer dans notre réflexion et dans nos pratiques. Et puis parfois on organise aussi des choses. On a organisé 3 jours les 14, 15, 16 octobre. Du coup, on se voit entre nous pour réfléchir, pour déjà se passer ce fameux téléphone qui voyage de main en main.
Et vous avez comme une charte de fonctionnement interne ou même pas ?
Il y a des principes. Il y a déjà la confidentialité, l'anonymat. Le non-jugement.
Le fait de fonctionner à deux, ça c'est vraiment
systématique. C'est même plus qu'à deux, en fait. Oui, c'est à deux de manière rapprochée autour de la personne. Mais les deux personnes qui accompagnent sont aussi intervisées par une troisième personne du groupe, au besoin. Genre, si on est dans un accompagnement où on voit qu'on n'avance plus, où on est un peu dépassé, où on ne sait plus comment faire avancer le truc, on fait appel à notre interviseuse. Donc c'est une troisième personne qui est membre du groupe aussi et qui fait un peu faire tiers et nous aider à un peu prendre du recul et voir comment on peut encore avancer dans cet accompagnement. Tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, je fuis à la hussarde, tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit.
Sillon, micro-sillon, 1, 2, 1, 2, c'est bon ?
L'émission est terminée. Au revoir, on se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.